Nous sommes anonymes, nous sommes dans l'ombre. Les sous-bassements sont nos refuges, ils seront vos tombes. Du formol ou de la putréfaction, le capitaliste n'est que la chair. Nous en serons les lombriques obèses. Ni oubli ni pardon. www.libradio.org. La radio de la fosse et de l'abîme.
Nous voilà de retour pour ce direct en public depuis le 25 rue du Vieux Billard, à l'occasion du vernissage de l'expédition. Nous avons parlé tout à l'heure avec Mao qui nous a un petit peu raconté comment ça s'était passé et comment elle, de son point de vue de membre active de la Swiss Cetacean Society, eh bien, son intérêt a produit tous ces dessins déjà qu'elle met à disposition maintenant des gens et ce soutien à la Swiss Cetacean Society. Alors, bonjour, Max-Olivier Bourcou.
Bonjour.
Tu es, si j'ai bien compris, le président et le fondateur de la Société Suisse d'études et de protection des cétacés. Alors, peut-être pour commencer, pourrions-nous définir qu'est-ce qu'un cétacé et en quoi sont-ils en danger ?
Alors, un cétacé, c'est un mammifère marin. Mammifère marin, ce sont ces mammifères qui sont retournés à l'élément liquide il y a quelques millions d'années. Contrairement à nous qui sommes restés sur Terre et qui se sont développés pour... ils sont donc mammifères, ils allaitent des petits sous l'eau, ils respirent de l'air alors qu'ils vivent sous l'eau et puis ils ont la même configuration biologique que nous au niveau des organes, au niveau de... Ils se sont très proches, ce sont des mammifères.
D'accord. Typiquement, les baleines, pour prendre l'exemple vraiment le plus connu. Et alors, ces mammifères sont en danger et la question, en tout cas pour vous, c'était de créer cette campagne pour justement essayer de les protéger, ces cétacés.
Oui, alors bon, la Swiss Cetacean Society, donc la SCS, pour faire peut-être plus simple, la SCS existe depuis 22 ans. Et effectivement, les baleines et les dauphins, les marsouins, qui sont les cétacés, les trois différents types d'animaux qu'on trouve parmi les cétacés, sont en danger, sont soumis à des pressions très fortes. Faut penser que ce sont des gros prédateurs et que aujourd'hui la planète devient de plus en plus petite pour les gros animaux. Et on partage un espace vital avec les activités humaines. Et ça, c'est particulièrement difficile. Donc, ce sont des pressions énormes. Enfin, à la SCS, on soutient tout ce qui est conservation marine. Donc, on est aussi très actif pour la protection des tortues vertes, tortues marines. On est très actif aussi pour la protection du phoque moine de Méditerranée, qui est une espèce aussi en voie de disparition. Et j'espère bien qu'un jour, un spécialiste nous rejoindra pour augmenter notre équipe et qu'on puisse s'occuper enfin des requins.
Ah, très bien, très bien. Alors j'allais justement vous demander de quelle manière est-ce que vous agissez ? Vous alertez les populations, vous menez campagne, vous pointez les pays, par exemple, on pourrait parler du Japon qui, voilà, d'une certaine manière, eh bien, n'aide pas à la protection de ces grands mammifères marins.
Alors notre spécialisation, c'est de soutenir la recherche scientifique qui permet, dont les résultats permettent aux décideurs de mettre en place des mesures de protection, soit des réglementations, soit des régulations d'activités humaines, ou bien des aires marines protégées. Donc ça, c'est notre créneau spécifique. On a déjà fait des campagnes de collecte de signatures, on a déjà organisé des descentes dans la rue, des manifestations devant des ambassades, mais ce n'est pas vraiment notre ADN, ça, parce que d'autres organisations le font mieux que nous, avec beaucoup plus de moyens. Et par contre, on est actif dans un créneau qui, par contre, est beaucoup moins occupé et absolument nécessaire, c'est favoriser les résultats scientifiques qui permettent à des décideurs politiques de mettre en place des mesures.
D'accord. Comprendre le monde qui nous entoure d'une certaine manière permet de s'y attacher et de le préserver.
Et ça permet aussi de sensibiliser le public parce que de ces recherches et de ces publications, on fait aussi un gros travail de de vulgarisation pour permettre de pouvoir après communiquer avec les écoles, avec le grand public, avec les médias aussi.
D'accord, très bien. On va tout de suite le rappeler, l'énoncé, le site internet, c'est www.swissetaceansociety.org. Je le coupe un peu pour que ce soit un petit peu plus audible. Le lien sera de toute façon mis au libellé de ce podcast, donc les personnes pourront très facilement rejoindre le site internet. De quoi, l'association, de quoi avez-vous besoin? De bras, d'argent? Quels sont les besoins immédiats?
Alors, bien évidemment que le nerf de la guerre, ça reste l'argent, donc on a besoin de beaucoup d'argent, mais on a tout autant besoin de bonne volonté. On a besoin de gens enthousiastes, on a besoin de gens qui n'ont peut-être rien à apporter que leur sympathie, leur bras, leur volonté, leur temps aussi. Et pour ça, pour nous, ce sont les deux pôles cruciaux sur lesquels on construit toutes nos activités. C'est pas nécessaire. On a autant besoin de l'un que de l'autre.
Très bien. Et alors, cette rencontre avec Mahou, elle est singulière dans le sens où, voilà, des dessins et un fanzine en ressort.
Oui, exactement. Ça, c'est les miracles des rencontres. Ça, c'est aussi le très beau côté de la vie associative, mais quel que soit le domaine. C'est les rencontres, c'est l'aventure humaine, c'est tout ce qui se passe autour. Ne serait-ce qu'une journée comme aujourd'hui, une après-midi comme aujourd'hui, c'est fabuleux.
Ce partenariat, est-ce que vous imaginez le reproduire d'une certaine manière, ou quelle piste envisagez-vous pour justement que les personnes puissent comprendre ces enjeux?
Alors, le travail que Mahou a fait, c'est de mettre en dessin une aventure qu'elle a vécue l'été dernier, où elle a participé à l'une de nos campagnes de collecte de données en mer. Ces collectes de données en mer, on les fait depuis plus de 20 ans. Chaque année, au départ de la Côte d'Azur ou au départ des Baléares. Il y a des années où on est parti, on partait des Bahamas, d'autres années on est parti des Açores, ça dépend. On va là où les scientifiques, nos partenaires scientifiques nous mandatent pour aller collecter des données. C'est pas, comme on n'est pas un tour opérateur, on n'est pas une agence d'écotourisme. On organise, on prend pas d'initiative à ce niveau-là. Ce sont tout simplement nos partenaires scientifiques de différents centres de recherche de biologie marine un peu partout sur la planète avec qui nous travaillons, qui nous disent, ben voilà, l'été prochain, j'ai besoin de données dans tel coin de la planète. J'ai pas les moyens de lancer mon projet maintenant, ou si je demande une bourse à mon université, ça va mettre peut-être 2 ans pour l'obtenir. Est-ce que vous pouvez me dépanner pour qu'on travaille l'été prochain? Et c'est là qu'on organise et on emmène des éco-volontaires du public, des gens qui ne sont pas du tout spécialisés, comme l'était Mahou le jour où elle est montée sur le bateau. Et puis, parce qu'une fois de plus, on a besoin de bras, et ces gens-là nous aident à descendre les hydrophones, à déployer le filet à plancton, ou puis les observations, le comptage, enfin tout ce travail qui est à bord en fonction de nos différents mandats.
Effectivement, Mahou tout à l'heure nous a fait le récit de ce voyage et elle disait l'intérêt qu'elle y avait porté et ce qu'on en avait retiré. C'est effectivement extrêmement intéressant. Alors actuellement, le projet, c'est la création du Whale and Dolphin Watching, responsable et respectueux des animaux.
Alors actuellement, on a à peu près 5 ou 6 gros chantiers dans ce genre-là. Ça s'en est un.
D'accord, oui. Ok. Et c'est celui qui, en tout cas, a déclenché cette rencontre. Alors, voudrais-tu nous en dire quelques mots?
Alors ça, c'est en fait, ça fait déjà longtemps qu'on se disait il faudrait quand même réguler un petit peu ces activités de whale watching. Donc whale watching, je précise, c'est l'activité qui consiste à monter sur un bateau commercial pour aller voir des baleines et des dauphins. Et c'est un domaine de l'écotourisme ou du tourisme tout court qui tend à s'amplifier. Et ça pose un problème parce que quand vous avez dans une zone des baleines qui sont observables, c'est souvent, si elles sont là, c'est qu'elles sont ralenties par une activité comme par exemple le fait qu'elles allaitent leurs petits ou qu'elles se nourrissent. Donc d'être mis sous pression par une multitude de petits bateaux qui viennent tourner autour, les regarder, ça peut interrompre une activité d'allaitement par exemple, ce qui est dramatique pour un baleineau. Ça peut interrompre même un moment de sociabilisation, donc ça aura un impact à long terme sur la courbe de reproduction. Et puis, alors, on ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut bien le faire. Il y a des règles, il y a un protocole d'approche et autres. J'avais déjà participé il y a une dizaine d'années à la mise sur pied d'un protocole d'approche des bateaux par rapport aux baleines pour la Méditerranée, qui a donné lieu par la suite à un label en Méditerranée. Mais il y a d'innombrables zones sur la planète où c'est absolument pas régulé. Et quand Yvan Martin est venu nous voir en nous disant voilà, je me suis spécialisé dans ce domaine par le biais de mon master dans une université suisse, de Suisse romande, je me suis dit, ah ben voilà, on a peut-être là, c'est un signe du destin qu'il faut qu'on passe maintenant en phase concrète. Et c'est là-dessus qu'on s'est lancé, et Yvan Martin en tête de file, pour la mise sur pied d'un écolabel international. Donc une labellisation des activités de whale watching. Et la première étape consiste à mettre ce projet sur pied dans une zone qu'il connaissait bien, qui était Goa.
Très bien.
En Inde.
Et alors là, quel est le retour des gens auxquels vous en parlez ? J'imagine, j'espère en tout cas, que vous remportez de nombreuses adhésions.
Alors, tout d'abord, Yvan Martin a eu le chic de se tout de suite générer un groupe hyper actif d'une douzaine de personnes, dont vous en avez quelques-uns aujourd'hui autour de nous.
Effectivement, oui.
Et qui en sont déjà leur deuxième événement suisse romande. Le premier, c'était à Lausanne il y a quelques mois. Maintenant, c'est ici à Genève. C'est une équipe qui est très dynamique. Lui, actuellement, il est à Goa, en train de rencontrer les whale watchers, surtout de travailler avec les organisations locales qui vont mettre sur pied, parce que nous, on ne veut pas exporter un savoir-faire, on conceptualise la labellisation, mais après, c'est les ONG locales qui doivent s'arranger avec les locaux pour affilier les opérateurs. Et ça, c'est le travail qu'il est en train de faire. Ça avance à une grande vitesse. Je suis très surpris parce qu'on en est déjà maintenant, aujourd'hui, après quelques... Ça fait à peine un mois et demi qu'il est parti. Et il en est déjà avec des rencontres avec les autorités locales. Enfin, ça se passe très bien.
Très bon signe, alors. On sent que c'est un terreau fertile et qu'on peut parler avec les personnes.
Il y avait un besoin, oui.
Ouais. Est-ce que les deux mamelles, j'ai envie de dire, de la lutte sont la loi et la formation des personnes sur place, c'est un peu ça.
Alors on va pas travailler avec la loi dans le sens que on veut pas faire quelque chose qui soit contraignant. D'autant plus quand c'est pas du tout chez nous. On n'est pas ici à Genève ou à Lausanne pour inventer des outils qui deviendront contraignants pour des Indiens à Goa. Mais l'idée c'était de se dire, dès l'instant qu'on ne veut pas arriver à un produit qui sera contraignant et qui va devoir être imposé par les autorités locales, comment intéresser un maximum d'opérateurs? Et tout simplement, l'idée, c'est de leur fournir un label qui sera un plus pour le recrutement de leur clientèle. Parce que le deuxième axe de ce travail, ça consiste à sensibiliser le public de Suisse romande, mais le public européen, à chercher des labels quand ils vont faire du whale watching à l'étranger.
Et donc d'être attentif, effectivement.
Exactement. Et ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, justement, en labellisant des gens, eh ben, on leur offre des outils de concurrence qui permettent de se démarquer de la concurrence et qui permettent d'avoir un plus. Donc, l'idée, c'est que tout le monde essaye d'adhérer à ce label de manière à ne pas rester sur le carreau, pas être celui qui est le seul sur le quai à ne pas avoir un label à proposer et donc, par conséquent, qui sera délaissé par la clientèle.
C'est une excellente stratégie, de mon point de vue en tout cas.
Tout
en douceur, exactement. Un petit, on arrive doucement à la fin de cet entretien, mais certainement que nous serons amenés à nous revoir, enfin, en tout cas
j'espère.
Oui. Avez-vous une position concernant la chasse à la baleine et ces 4-5 pays, qui, et notamment le Japon, qui a remis en question le fait de ne plus produire cette chasse funeste, ou est-ce que ça c'est encore quelque chose de différent?
Alors la chasse à baleine, bien sûr, c'est ce qui m'a mis d'ailleurs, ce qui m'a amené à fonder la STS il y a 22 ans. Et parce qu'à cette époque-là, je m'intéressais au rôle de la Suisse à la Commission baleinière internationale. Parce qu'il faut quand même rappeler que dans ce pays, on paye dans nos impôts, on paye des fonctionnaires à Berne qui vont voter pour ou contre la reprise d'une chasse commerciale. Et donc ça nécessitait quand même qu'une association suisse mette son nez dans l'histoire et puis contrôle un petit peu ce qui se passe à Berne. Et donc la chasse effectivement est problématique. Chaque baleine qui est tuée, c'est un drame dans le sens que, comme je l'expliquais tout à l'heure, les mers, les océans deviennent de plus en plus petits. Aujourd'hui, ces animaux font face à des pressions énormes. Si on veut que nos petits-enfants puissent encore voir des baleines, il faut vraiment se battre aujourd'hui. Donc chaque baleine tuée est un drame. Maintenant, ça peut être aussi l'arbre qui cache la forêt. Parce que certes, c'est dramatique, mais le nombre de baleines qui meurent des suites de la pollution chimique, des plastiques, de tout le reste du trafic maritime, des collisions avec les ferries, est énorme aussi. À la limite, du coup, ça rend presque même la chasse anecdotique. La chasse, il faut quand même continuer à mettre l'accent contre cette activité, parce que ça, c'est un facteur qui peut s'interrompre du jour au lendemain. D'accord. Alors que le reste mettra beaucoup plus de temps.
Bien sûr, il y a une inertie. D'accord. Parce que j'allais justement pour en finir doucement, et puis ensuite nous allons continuer avec nos prochaines invités, pour lesquels je m'excuse, du temps qu'on prend, on est un petit peu en retard, mais parce que je tiens à ce que vous ayez aussi du temps pour parler de ce qu'on va aborder tout à l'heure. Mais je me demandais si effectivement, c'était un petit peu le sens de ma question, si ça n'est pas là, effectivement également, là, tu l'as mentionné, et qu'un des autres problèmes était cette fameuse extinction, ces fameuses extinctions d'autres espèces. On parle de sixième grande extinction pour parler des collapsologues, par exemple. Et est-ce que ça, c'est effectivement également un facteur problématique qui, effectivement, lui, ne se règle pas du jour au lendemain. Je pense au plancton, je pense à toute la chaîne alimentaire qui est polluée et qui manque à l'appel et qui provoque des décès ou en tout cas des problèmes de croissance chez les cétacés.
Bah, disons que sans vouloir terminer sur une note très négative, il faut avoir conscience que dans les océans, il se passe actuellement des choses énormes, gigantesques, qui nous dépassent complètement et qui passent totalement inaperçues parce qu'elles ne sont pas visibles. Personnellement, à titre totalement privé, mon principal souci de préoccupation, ça reste l'acidification des océans. Et l'acidification est en croissance exponentielle en ce moment. Le jour où elle va atteindre un certain niveau, enfin ce sera une ligne de non-retour, on va obtenir, il faut imaginer que ça va toucher tous les crustacés, tous les coquilles. Le monde marin est constitué de calcium. Donc si le microplancton ou le zooplancton commence à souffrir de cette dissolution du calcium, là ça, c'est toute la chaîne alimentaire qui s'écroule.
Problème complexe sur lequel on reviendra. On ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'effectivement c'est beaucoup trop sensible pour qu'on le balaye de quelques mots. Mais on se retrouvera pour parler de ça.
Mais peut-être pour répondre à ta question, il y a effectivement des cas préoccupants de disparition proche, comme je pense à la vaquita, le petit marsouin, où il ne reste plus qu'une dizaine d'individus sur cette planète avant l'extinction complète de l'espèce. Donc ce qui est dramatique, c'est que pendant des millions d'années, ou en tout cas des centaines de milliers d'années, l'espèce humaine n'a pas été témoin d'une disparition d'une espèce de mammifère marin. Là, la nôtre, là aujourd'hui, risque d'en voir disparaître de son vivant sur une génération, peut-être trois, ce qui est énorme, alors qu'il n'y en a eu aucune sur des centaines de milliers d'années.
D'accord. Soutenez la SCS, la Société Suisse d'études et de protection des cétacés. Baleines et dauphins ont besoin de vous. Max-Olivier Bourcou, président et fondateur de l'SCS, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, d'avoir pris du temps.
Merci
et puis, bien sûr, qu'on viendra là-dessus. Bonne continuation
et
à bientôt.
Je reviens avec plaisir.
Ah, c'est un plaisir partagé. Merci.